Chapitre 5. Un naufrage. Les jeunes enfants retournèrent le lendemain, comme il était convenu, chez leur excellent ami. Ils le trouvèrent soucieux et fatigué. « Qu'avez-vous donc, monsieur le Troadec ? » demanda Ludovic. « Seriez-vous souffrant ?»«
Oh, ce n'est rien, » répondit-il. « J'ai peu reposé cette nuit. Voilà ce qui me donne un peu de lassitude. Une promenade me remettra. Si vous voulez, nous irons prendre l'air sur les falaises. Nous causerons en marchant. »
« Nous ne demandons pas mieux, » répondirent les enfants. Et tous les trois se dirigèrent du côté de la plage. Après un moment de silence, M. Le Troadec étendit la main vers des rochers situés à une lieue environ du rivage.
« Voyez-vous, » dit-il, « ces récifs contre lesquels la mer moutonne. Ils ont failli devenir cette nuit le tombeau de plusieurs pêcheurs. Leur bateau avait été surpris par un grain près de l'île Ouessan, et en cherchant à revenir à la côte, ils ont été précipités sur ces écueils. Leur barque faisait eau, et leur situation était devenue des plus critiques, quand un douanier aperçut leurs signaux de détresse. Il a couru chez moi et m'avertit de ce qui se passait. Je me levai aussitôt, et je me jetai dans un canot, avec deux matelots qui sont mes voisins. Nous eûmes le bonheur de recueillir ces malheureux et de les déposer à terre sains et saufs. Ils sont sauvés, c'est vrai, mais leur bateau, qui était leur gagne-pain, n'existe plus.
Enfin, ajouta le vieux marin d'un air pensif, nous verrons ce qu'on pourra faire pour eux.
« Comme vous êtes courageux et bon, » dit Horace en saisissant les mains de l'ancien officier.
« Cela ne vaut pas la peine d'en parler, » répartit le brave homme. « Tout autre à ma place en eût fait autant. » Quand on a vu de près comme moi les horreurs du naufrage, on ne peut s'empêcher de voler au secours des gens en péril.
« Vous avez donc fait naufrage, monsieur le Troadec ?» demanda Ludovic.
« Une fois, » répondit-il, « et c'est un des événements les plus terribles auxquels j'ai jamais assisté. La guerre avec ses dangers, l'abordage avec ses fureurs n'ont rien de comparable avec la position d'infortuné qui se voit descendre lentement dans l'abîme, sans aucune espérance de secours, ou qui, entassé dans une étroite chaloupe, errant au gré des vagues et des vents, se trouve réduit pour prolonger leur vie de quelques jours, à dévorer jusqu'à leurs vêtements et à se manger les uns les autres. Ah, c'est surtout dans ces luttes contre les éléments que l'homme a besoin de cette énergie, de cette résignation par lesquelles il devient mille fois plus admirable à nos yeux que par sa bravoure sur les champs de bataille.
Asseyons-nous sur le gazon, ajouta M. le Troadec en désignant du doigt un petit tertre couvert d'une herbe peu haute émaillée de romarin. Et je vous raconterai un de ces drames maritimes auxquels il est réellement difficile de croire. J'étais revenu à Brest à l'expiration du congé que j'avais passé en grande partie à Laval. Je fus attaché aux travaux du port en qualité de lieutenant de vaisseau, et j'y restai jusqu'en 1835. On armait, à cette époque, une frégate destinée à faire un voyage de circumnavigation. Comme je n'avais jamais voyagé dans les mers du Sud, je cédais au désir de voir les côtes d'Asie, et je demandai à faire partie de l'expédition. Ma demande fut accueillie favorablement. Après avoir doublé sans encombre le cap de Bonne-Espérance et visité nos colonies des Indes, nous franchîmes le détroit de Malacca et nous entrâmes dans le grand océan. Nous allions passer sous la ligne, nous dirigeant vers la Californie, quand un violent incendie éclata à notre bord. Le capitaine vit du premier coup d'œil qu'il serait impossible de maîtriser le feu. Les flammes allaient bientôt gagner les poudres. Il ordonna d'ouvrir de larges voies d'eau dans le pont. Les flots se précipitèrent avec impétuosité dans la frégate et parvinrent à arrêter les progrès du feu. Mais ce fut un autre danger. Chacun comprit que le navire ne pourrait tarder à s'ensevelir dans la mer. Alors commença une scène d'horreur qui dépasse tout ce que je pourrais dire et où se révélait, selon les caractères différents, le courage et la faiblesse, la résignation et le désespoir. Imaginez, plus de 200 hommes, nous avions déjà perdu beaucoup de monde par les maladies, en présence d'une mort à peu près certaine, songeant à leur pays, à leur famille, dont la plupart sont l'unique soutien, attendant leur mort avec un stoïcisme incroyable,
ou avec une insensibilité stupide. Nous vîmes quelques-uns de ces malheureux chercher dans l'abus des liqueurs fortes l'enivrement et l'oubli. Leurs chants insensés tenaient du délire et brisaient le cœur dans un pareil moment. D'autres, sans attendre que le capitaine eût organisé les moyens de sauvetage, se précipitèrent dans les flots et se noyèrent, en voulant échapper au trépas qui les attendait. D'autres, enfin, avaient conservé leur sang-froid. Pleins de confiance dans le ciel et dans leurs officiers, ils s'offrirent pour confectionner des radeaux et armer les canots et la chaloupe. Avant de consentir à leur demande, le capitaine fit monter un matelot au grand mât, souhaitant, sans oser l'espérer, qu'il découvrit au loin quelques bâtiments. Le matelot parcourut l'horizon d'un regard inquiet, puis, tout à coup, agitant son chapeau, il s'écria « Une voile sous le vent !» Cette bonne nouvelle fut reçue avec des cris de joie. Mais hélas, le navire aperçu était à une distance telle qu'il n'entendit point notre voix et ne vit point nos signaux. Nous avions dû jeter des canons à la mer pour soulager la frégate, et nous n'avions plus aucun moyen de l'informer de notre détresse. Le capitaine donna l'ordre de préparer les radeaux et les embarcations, et d'opérer le transbordement. On se mit immédiatement à l'œuvre, et au bout de 2 heures, la chaloupe, les canots et plusieurs radeaux étaient rangés le long de la frégate. Malgré le désir de chacun d'abandonner au plus vite le bâtiment, la discipline fut sévèrement observée. Les mousses descendirent d'abord, puis les matelots, enfin les officiers. Quelques minutes après, la frégate disparaissait dans les profondeurs de l'océan. Le capitaine prit le commandement de la chaloupe. Les autres officiers furent chargés de la direction d'un canot ou d'un radeau. On avait embarqué des vivres et de l'eau pour plusieurs semaines. On devait naviguer le conserve et tâcher de ne point se perdre de vue. C'est ce que l'on fit pendant 10 jours. Au bout de ce temps, on n'avait pas encore rencontré ni un navire, ni une terre. Le 11e jour, on aborda à une petite île pour faire de l'eau, mais sans oser pénétrer à l'intérieur, car les dispositions des insulaires paraissaient très hostiles. Cependant, les vivres commençaient à diminuer. Le capitaine crut prudent de partager les embarcations en plusieurs groupes. Il distribua entre eux les armes, les instruments nautiques et les provisions qui restaient. Puis l'on se dit adieu, en faisant des vœux pour se retrouver plus tard. La séparation fut navrante. Tous ces hommes qui, depuis 15 jours, avaient déjà tant souffert, pleuraient comme des enfants à l'idée de ne plus se revoir. Je commandai l'un des canots qui suivirent le capitaine. Comme nous possédions une boussole, nous cherchâmes à atteindre non les côtes de l'Amérique, dont nous étions beaucoup trop éloignés, mais l'un des nombreux archipels répandus dans cette partie de l'océan. Notre intention était d'aborder aux îles Peleliu ou Palas. Nous nous dirigeâmes de ce côté en conséquence, mais nous ne pouvions gouverner facilement, et le vent nous eut bientôt jetés hors de notre route. Les vivres diminuaient de plus en plus. En quittant la frégate, chaque homme avait reçu d'abord pour ration un biscuit et 1 litre d'eau. Puis cette ration avait dû être réduite à 1/2 biscuit et 1/2 litre d'eau. Nous souffrions beaucoup de la pluie, qui ne cessait de tomber depuis quelque temps, et la faim se faisait déjà sentir. Nous nous mîmes à manger nos souliers, nos vêtements et même des morceaux de bois. Rien ne pouvait assouvir notre faim. Quand il n'y eut plus rien à dévorer, nous en vîmes, vous le dirai-je, à devoir nous nourrir de chair humaine. « Oui, mes enfants, de chair humaine !» répéta le vieil officier en accentuant chaque syllabe comme quelqu'un qui se rappelle une monstruosité inouïe. Le moment arriva où il fallut sacrifier une première victime au salut de tous. Sur un signal du capitaine, toutes les embarcations rallièrent la chaloupe, et il fut décidé qu'on tirerait à la courte paille. Déjà, un matelot présentait au capitaine son chapeau devenu l'urne fatale, quand une idée subite traversa mon esprit. J'avais trouvé le moyen de sauver notre capitaine. « Camarades, m'écriai-je, qu'allons-nous faire? Si le capitaine est désigné par le sort pour mourir, Que deviendrons-nous sur ces mers inconnues? Lui seul peut nous guider vers quelque continent. En lui ôtant la vie, nous nous perdrons tous. Et si nous avons le bonheur de rentrer dans notre patrie, qu'aurons-nous à répondre à ceux qui nous demanderont ce que nous avons fait de notre chef? Il ne faut pas que le commandant meure. Dieu nous refuserait désormais son secours. Le lieutenant a raison, répondit-on de toutes parts, et il fut aussitôt arrêté que le capitaine ne tirerait pas au sort. Mais alors s'élevèrent des réclamations de plus d'une espèce. L'un se plaignait que sa femme et ses enfants n'avaient que son travail pour vivre. L'autre disait que sa vieille mère comptait uniquement sur lui. Un troisième, encore très jeune, ne pouvait se résoudre à mourir. Tous voulaient vivre, et vivre aux dépens de leurs voisins. Nous ne savions comment sortir de cette difficulté quand un homme, qui assistait à nos débats sans rien dire, se leva et fit une proposition qui portait à tout concilier. C'était un nègre à la fleur de l'âge, d'une santé robuste, et sur qui les privations endurées depuis le naufrage n'avaient pas exercé des ravages aussi funestes que sur la plupart des matelots. Pétro, ainsi se nommait cet homme, avait été racheté de l'esclavage par notre capitaine dans les colonies françaises, et depuis cette époque il avait suivi partout son maître, à qui il était très dévoué. Soit qu'il craignît que le trépas de son cher capitaine ne fût que différé, ou qu'il crût nous sauver tous en se sacrifiant, il s'adressa ainsi à ceux qui l'entouraient. « Mes amis, je n'ai pas les mêmes motifs que vous de vivre. Je suis seul au monde, sans famille qui s'intéresse à moi. Avec la permission du commandant, je consens à périr pour vous, et puisse ma mort vous sauver. C'est tout ce que je demande à Dieu. » Ce langage, dans la bouche d'un homme que personne n'aurait jugé capable d'un pareil héroïsme, m'arracha des larmes. Le capitaine fit un pas vers Pétro et l'embrassa avec effusion. Il ne pouvait se décider à accepter son offre généreuse. Dans une situation si désespérée, la Providence daigna jeter un regard de commisération sur tant d'infortunés. Le capitaine annonça le jour suivant que, par suite du changement de vent survenu depuis 3 jours, nous nous étions considérablement rapprochés des îles Pelew, et que nous y aborderions peut-être avant la nuit. Cette nouvelle rendit le courage à ceux-mêmes qui paraissaient le plus abattus. La journée se passa dans les alternatives de l'espérance et de la crainte. On s'était déjà cru tant de fois près de rencontrer la terre. Si le commandant s'était encore trompé, mais non. Vers 6 heures de l'après-midi, un matelot distingua nettement les côtes à l'horizon. Au cri de « terre », chacun se leva et, fixant les yeux sur le point indiqué, s'assura par lui-même que ce n'était pas une illusion. Le matelot avait dit vrai. Nous avions devant nous une île. Nous résolûmes d'y descendre. Dussions-nous être tous massacrés par les naturels, cette mort nous semblait plus douce que celle à laquelle la faim et la soif nous exposeraient. D'ailleurs, nous avions encore des armes, et nous vendrions chèrement notre vie. La chaloupe aborda, ainsi que les 2 canots qui l'accompagnaient, en remorquant un vaste radeau. 25 hommes se rendirent à terre pour reconnaître le pays. Leur absence dura longtemps. Nous crûmes qu'ils avaient succombé sous les coups des sauvages, et le commandant songeait déjà à s'éloigner de ces rivages perfides, quand nous les vîmes revenir tous sains et saufs. Derrière eux marchait un noir qu'on pouvait prendre pour le chef de l'île, et qui nous invita à laisser là nos embarcations et à le suivre. Le capitaine voulut savoir jusqu'à quel point il pouvait se fier à sa parole. L'officier qui était allé à la découverte avec le détachement s'empressa de le rassurer en lui racontant comment ils avaient fait la connaissance de celui qu'ils croyaient le roi des insulaires. « Nous avons, nous dit-il, suivi la côte pendant quelque temps. Après 1 heure de marche, nous sommes arrivés à une espèce de cabane auprès de laquelle nous avons aperçu plusieurs nègres endormis à l'ombre d'un arbre. 2 chiens énormes veillaient à côté d'eux. À l'approche des étrangers, les molosses se mirent à aboyer et réveillèrent les noirs. L'un d'eux, qui paraissait être le maître, saisit un fusil étendu à terre et fit mine de s'en servir contre nous. Il nous prenait pour des ennemis. Nous nous sommes efforcés de lui faire comprendre par des signes que nous n'en voulions nullement à sa vie. Aussitôt, il fit taire les chiens et déposa son arme. Alors, Jacques Kerver, le gabier, qui avait séjourné longtemps en Angleterre, eut l'idée de lui adresser la parole en anglais. Le chef comprenait assez bien cette langue. Il parut touché de notre infortune et promit de nous venir en aide. Puis il demanda que nous l'amenions aux embarcations afin de chercher nos camarades, car nous pouvions être exposés à de mauvais traitements de la part des naturels. Il nous a aussi engagés à ne pas trop nous avancer dans l'île et à ne jamais nous risquer dans les endroits solitaires, si nous tenions à ne pas être égorgés par ses sujets. Le prince noir à qui le gabier servait de truchman entra en relation avec notre capitaine. Il exigea que chacun de nous lui remît ses armes, même son couteau, et tout l'argent qu'il possédait. Nous avions une envie démesurée de donner une leçon à cet affreux moricaud, mais le sentiment de notre position nous empêcha de commettre une imprudence qui nous eût été funeste. Tout le monde obéit et feignit de croire à sa bonne foi, quand il assura que ces objets nous seraient rendus à notre départ, et qu'il voulait seulement les placer en lieu sûr. Inutile de dire qu'ils ne nous furent jamais restitués. Nous laissâmes, non sans une certaine inquiétude, nos embarcations amarrées au rivage, et nous pénétrâmes dans l'île. À peine avions-nous fait un kilomètre que notre troupe fut entourée de sauvages. Le roi tâcha de nous protéger tant bien que mal contre les exigences des insulaires, mais sans parvenir à les écarter. Ils nous fatiguaient par leurs cris rauques et par les regards de convoitise qu'ils fixaient sur nos vêtements. Quelques-uns en voulaient particulièrement au paletot du capitaine, dont les boutons dorés brillaient au soleil, et comme ils ne se souciaient pas de s'en dépouiller pour leur faire plaisir, l'un d'eux leva sa hache pour lui fendre la tête. Le chef comprit qu'il était temps d'intervenir. Il donna son propre fusil au capitaine et l'autorisa à tuer le premier de ses sujets qui oserait le maltraiter. Nous nous installâmes le soir dans un petit bois voisin de l'habitation du roi et tout près de la côte. Nous mangeâmes des coquillages et des fruits. Puis nous nous étendîmes à terre et nous nous endormîmes profondément. Le capitaine, de peur de surprise, avait établi un poste et posé des sentinelles. Cette précaution fut heureusement inutile. Les sauvages s'étaient dispersés sur l'ordre de leur chef, et rien ne vint troubler notre repos. Le lendemain, le commandant jugea à propos de se rapprocher des embarcations. Nous allâmes bâtir des huttes à quelque distance de notre premier bivouac, sur un terrain d'où nous pouvions facilement surveiller les canaux et guetter le passage d'un navire européen. Deux matelots furent successivement chargés de ce soin. Les insulaires s'habituèrent à nous voir et nous n'avions point à nous plaindre de leur procédé à notre égard. Tous les jours, nous allions pêcher des crabes qui composaient en grande partie notre nourriture. Nous y ajoutions une espèce de pomme de terre et des aliments grossiers que les indigènes consentaient parfois à nous donner en échange de morceaux de ferraille ou de boutons. Le roi ne tarda pas à se convaincre que nous étions des gens fort inoffensifs, et il consentit à nous rendre nos couteaux. Il prit même à son service un matelot dont l'adresse lui plut infiniment, ce qui contribua encore à nous le rendre favorable. Cet homme, très mauvais marin, mais un peu cuisinier, savait préparer certains plats qui flattaient singulièrement le palais de Sa Majesté Nègre. Il faisait rôtir, en les arrosant d'une sauce fortement épicée, les oiseaux que le prince tuait à la chasse. Il cultivait son petit jardin et exécutait une foule de travaux. Son maître était émerveillé de ses talents. Il y avait 51 jours que nous étions dans l'île, quand le matelot, placé en vigie, nous prévint qu'il apercevait au loin un grand bâtiment. Tout le monde fixa aussitôt les yeux sur le point de l'horizon indiqué. Le navire approchait. Nous distinguâmes bientôt très nettement un navire anglais. C'était une frégate. Elle se dirigeait de notre côté, et elle ne manquerait pas, assurément, de passer assez près de l'île pour entendre nos cris et voir nos signaux. C'est ce qui arriva. Un officier fut envoyé à terre avec la chaloupe. Après avoir entendu de la bouche de notre capitaine le récit de nos malheurs, il retourna à son bord et informa son capitaine de ce qu'il avait appris. Une demi-heure après, la chaloupe revint avec plusieurs canots, et nous fûmes recueillis sur la frégate qui nous transporta à la Guadeloupe. Le consul français nous reçut avec une bienveillance parfaite et s'occupa de nous procurer promptement les moyens de revenir à Brest. Quant au malheureux que les circonstances avaient obligé de se séparer de nous quelques jours après notre naufrage, leur sort avait été plus triste encore que le nôtre. La plupart avaient péri sans rencontrer aucun secours. Une vingtaine seulement avaient pu, après des souffrances inouïes, toucher à un rivage hospitalier et de là regagner leur pays. « Vous le voyez, mes enfants, » dit Monsieur le Troadec, « la vie des gens de mer est exposée à bien des épreuves, mais avec de l'énergie, de la gaieté et surtout une grande confiance en Dieu, on parvient à triompher d'obstacles réputés insurmontables. Bien que vous ne soyez pas destinés à la marine, il faut que vous deveniez de jeunes gens courageux. Vous aurez à prouver un jour que vous êtes réellement des hommes. Ce n'est que par le talent qu'on arrive à une position honorable, si on ne tient pas à suivre la voie honteuse de l'intrigue. Or, le talent est le résultat du travail, et l'on a besoin de courage pour s'y livrer avec persévérance, au collège d'abord, puis dans la carrière qu'on s'est choisie. Mais je ne veux pas vous faire une remontrance au lieu d'un récit que vous êtes venus entendre. Je vais voir mes pauvres pêcheurs de la nuit dernière. » Comme il disait ces mots, un jeune homme portant l'uniforme d'officier de marine entra subitement et se jeta dans les bras du vieillard. Monsieur Le Troadec poussa un cri de surprise et de joie. Puis, calmant l'émotion que lui causait cette visite inattendue, il le présenta à ses petits amis. « Mes enfants, dit-il, puisque vous aimez tant les histoires de mer, vous serez satisfaits. Je vous ai raconté à peu près tout ce qu'il y a eu d'intéressant dans ma vie. Mon neveu Frédéric se fera un plaisir, j'en suis sûr, de vous dire à son tour ce qu'il a vu d'extraordinaire en Chine et au Mexique. Mais, ajouta-t-il en s'adressant au jeune homme, tu ne m'as pas appris à quelles circonstances je dois de te revoir d'une manière si imprévue. Ta dernière lettre était datée de Canton et rien ne m'annonçait que tu fusses sur le point de revenir si tôt en France. Mon oncle, répondit Frédéric, j'ai tenu à ne point vous donner d'inquiétude. Je sais combien vous m'aimez, depuis surtout que j'ai perdu ma pauvre mère et que je suis presque seule au monde. J'ai été pris de la fièvre il y a un mois, et le docteur de notre frégate m'a engagé à faire mon possible pour obtenir de rentrer à Brest. Cette autorisation m'a été accordée, et je viens passer auprès de vous, mon bon oncle, un congé de convalescence de 3 mois. Monsieur Le Troadec serra affectueusement la main de son neveu et l'examina avec intérêt. Ses traits un peu amaigris indiquaient en effet un état de souffrance, mais il n'y avait heureusement rien de grave dans sa maladie. Une vie calme et les soins du vieillard ne manqueraient pas de lui rendre avant peu toute sa vigueur. Ils continuèrent de s'entretenir d'affaires qui les concernaient l'un et l'autre. Pendant ce temps-là, les deux enfants tenaient les yeux fixés, avec la curiosité de leur âge, sur le nouveau venu. C'était un homme de 30 ans à peine, grand et bien fait, mais dont les épaules un peu voûtées attestaient un long séjour dans les entrepôts. Son visage, bruni par le soleil et le hâle, avait une expression d'énergie extraordinaire. On voyait qu'il y avait en lui l'étoffe d'un vaillant marin. Le ruban de chevalier de la Légion d'honneur, passé à sa boutonnière, montrait, du reste, que déjà il avait fait preuve de capacité et de courage. Entré au vaisseau-école, à la suite d'un examen brillant, il avait obtenu au choix, et de bonne heure, le grade de lieutenant de vaisseau. Au bout de quelques minutes, Horace et Ludovic comprirent qu'il y avait de l'indiscrétion de leur part à prolonger la séance chez le vieil officier. Ils se levèrent et se disposèrent à partir. Monsieur Le Troadec avait à causer avec son neveu, et il ne les retint pas, mais il leur fit promettre de ne rien changer à leurs habitudes à son égard, tant qu'il resterait au Conquet, et il annonça qu'il irait le lendemain voir Madame de Kerderet avec son enseigne de vaisseau. Frédéric ne demandait pas mieux que d'entrer en relation avec les amis de son oncle. Franc et ouvert comme le sont généralement les marins, il serra cordialement la main aux enfants et leur dit qu'il leur raconterait avec plaisir sa campagne en Chine.